Vous écoutez RFI, merci de votre fidélité. Il est 7h30 à Paris, 6h30 à Niamey, 5h30 temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin avec Édouard Dupénoat. Bonjour Édouard.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
L'actualité africaine avec les premières discussions concrètes pour le retrait des troupes américaines du Niger.
Rapatrier le millier de soldats, oui, mais quand et comment rencontre aujourd'hui à Niamey entre responsables américains et nigériens. Plus de 220 civils froidement abattus par l'armée burkinabé dans deux villages au mois de février. Human Rights Watch publie une enquête sur les massacres de Nodin et de Soro, parmi les tueries les plus sanglantes de ces 10 dernières années. Le paludisme fauche encore des centaines de milliers de personnes par an, mais le glas est-il en train de sonner pour lui ? Journée mondiale de lutte contre la malaria ce 25 avril, alors que des vaccins efficaces se déploient enfin. Un youtubeur marocain condamné à 4 ans de prison pour avoir diffamé le ministre de la Justice. Et la Banque mondiale qui suspend les millions de dollars alloués à un parc naturel tanzanien. Les populations locales y subiraient de lourdes exactions et des expulsions de masse pour faire place nette pour les touristes. Une première réunion concrète aujourd'hui à Niamey pour planifier le départ des soldats américains. L'ambassadrice des États-Unis ainsi qu'un haut gradé vont rencontrer dans la capitale nigérienne des membres du CNSP pour commencer à plancher sur un calendrier précis du retrait de la troupe. En fin de semaine dernière, les États-Unis confirmaient bien que le principe du départ était validé. Restait donc à définir les dates et les modalités concrètes, Guillaume Nodin.
Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger, c'est ce qui commence aujourd'hui à Niamey. Côté américain, c'est l'ambassadrice au Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le général de division Ken Heckman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, qui rencontrent les membres du CNSP. Et ce n'est qu'un début. La semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent se tenir dans la transparence et le respect mutuel, indique le communiqué du département d'État. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine, les États-Unis sont fiers de la coopération de sécurité avec le Niger au fil des ans. Toutefois, les discussions depuis juillet 2023 n'ont pas permis de trouver un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération. En revanche, le partenariat entre le Niger et les États-Unis va se poursuivre dans d'autres domaines d'intérêt commun. Le secrétaire d'État adjoint américain est annoncé dans les prochains mois à Niamey pour en parler. Mais les soldats américains, eux, vont partir. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'armée du Burkina Faso, suspectée d'avoir commis 2 massacres de masse contre des villageois. Human Rights Watch publie ce matin une enquête qui accable les forces de sécurité burkinabè, accusées d'avoir abattu plus de 220 personnes il y a 2 mois dans la province du Yatenga, dans le nord du pays. Les militaires auraient rassemblé les villageois avant d'ouvrir le feu dans ce qui semble être des représailles après une attaque terroriste contre l'armée et contre ses supplétifs civils, Sidi Yansané.
Les massacres dans les villages de Nodin et Soro le 25 février dernier avaient déjà été documentés par RFI qui s'appuyait alors sur un bilan provisoire de 170 morts. Aujourd'hui, le rapport de Human Rights Watch en dénombre jusqu'à 223, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants. L'ONG s'est entretenue avec une quinzaine de personnes témoins des tueries. Elle raconte qu'un convoi de plus de 100 militaires est arrivé en début de matinée à Nodin. Ils ont regroupé les villageois à l'extérieur avant d'ouvrir le feu. Le scénario va se répéter dans le village voisin de Soro. Selon les rescapés, les victimes ont été abattues suite à une attaque terroriste contre des FDS et leurs supplétifs VDP près de Waïgouya, la capitale provinciale. En représailles, les militaires ont exécuté les villageois, les accusant d'être des complices des djihadistes. Human Rights Watch compte ces massacres parmi, je cite, les pires exactions commises par l'armée burkinabé depuis 2015 et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité.
Sidi Yansané. 600 000 morts dans le monde encore en 2022, la quasi-totalité sur le continent africain, 95% d'entre eux. Mais ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme, est sans nul doute celle qui incite malgré tout le plus à l'optimisme ces dernières années. Parce qu'après 30 ans de recherche, il y a enfin des vaccins sûrs contre la malaria, testés, validés, approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Une 20aine de pays du continent africain lancent ou vont lancer des campagnes d'injection à grande échelle pour les enfants. Ils sont le public le plus à risque face au palu. Le Bénin a par exemple reçu plus de 200 000 doses du vaccin RTS,S Et symboliquement, Jean-Luc Aplogan, la campagne commence ce jeudi.
Lancement officiel avec solennité à Lada, à 54 km au nord de Cotonou, en présence des partenaires financiers et techniques, UNICEF, OMS ou Alliance Globale pour les vaccins. La vaccination se déroule d'abord dans 3 zones sanitaires sur 16 prévues, au sud, au centre et au nord du pays, des zones dites prioritaires. Le reste sera enrôlé plus tard. La première livraison de 215 000 doses suffira pour un peu plus de 50 000 enfants. Il en faut 4 par enfant, 3 la première année et la quatrième dose la deuxième année. Il s'agit de doses injectables de 0,5 ml. La piqûre se fait à la cuisse avant l'âge de 1 an et après au bras. On n'a pas encore entendu les anti-vaccins et les sceptiques comme à l'époque du Covid-19. Sur la fiabilité, le gouvernement met en avant l'homologation de l'OMS. Le ministre de la Santé expliquait récemment que la vaccination reste l'une des stratégies les plus sûres et les plus efficaces. RFI apprend que le Bénin attend une prochaine livraison de vaccins antipaludiques. Le pays devrait s'approvisionner tous les 3 mois, confie une source. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Est-ce qu'il est possible dans ce cas d'éradiquer le paludisme et cela pour de bon ? Caroline Paré et ses invités ouvrent le débat tout à l'heure sur l'antenne de RFI dans Priorité Santé. Rendez-vous à 9h10 en temps universel. Pour l'heure, TU toujours. Il est 5h36, on en vient à cette mise en demeure contre l'un des plus grands géants de la tech mondiale. La République démocratique du Congo accuse Apple d'utiliser pour ses produits des minerais extraits illégalement de ces mines. Des mines où des droits humains seraient violés. Ces minerais seraient ensuite transportés hors de la RDC vers le Rwanda où ils seraient blanchis. Voilà ce que dit la mise en demeure qui a été adressée cette semaine aux 2 filiales du géant Apple en France. Mise en demeure adressée par les avocats William Bourdon et Vincent Brengars. Un courrier a aussi été envoyé à la maison mère américaine du géant de la tech. Les autorités tunisiennes annoncent une nouvelle découverte macabre sur les rives de la Méditerranée. Les corps de 14 personnes noyées ont été retrouvés entre vendredi dernier et hier sur les rivages de l'île de Djerba. Précision donnée par le procureur du tribunal de Medellin. Cette route migratoire de la Méditerranée centrale a connu l'année dernière une hausse drastique du nombre de morts ou de disparus en mer. Quasiment 2500 personnes, dit l'Organisation internationale des migrations, soit 75% de hausse par rapport à 2022. La justice marocaine prononce 4 ans de prison ferme à l'encontre d'un vidéaste, Mohamed Reda Taoujini, condamné par la cour d'appel d'Agadir. Il lui était reproché d'avoir diffamé le ministre de la Justice, Abdelatif Wabi, dans l'une de ses vidéos postées sur YouTube. Il évoquait alors les liens potentiels du ministre avec un trafic international de drogue, Alexis Guilleux.
Tout est parti d'un scandale retentissant. Fin 2023, un influent trafic de drogue en prison depuis plusieurs années décide de se confier aux enquêteurs sur ses liens avec le milieu politico-financier marocain. El Hadjamed Ben Ibrahim, surnommé le Malien ou le Pablo Escobar du Sahara, accuse, preuve à l'appui, des dizaines de personnes d'avoir profité de son trafic en échange de protection, de services ou d'argent. Parmi les suspects arrêtés, le président du Wydad Casablanca, Saïd Nassiri, et le président de la région de l'Oriental, Abdenbi Bioui. Problème, tous deux sont également des membres influents du parti Authenticité et Modernité, un parti fondé et présidé par Abdelatif Wabi, actuel ministre de la Justice. Un ministre anciennement avocat et qui avait pour clients messieurs Nassiri et Bioui. Interrogeant dans une vidéo sur sa chaîne YouTube les liens entre les trois hommes, Mohamed Reda Taoujini a publiquement émis l'hypothèse que le ministre était au courant, en sa qualité d'avocat, des affaires dans lesquelles trempaient ses clients. Selon l'une de ses avocates, Maître Brahma Souad, son arrestation en février dernier est un abus de pouvoir, tandis que sa condamnation à 4 ans de prison a moyen de réduire au silence un citoyen à l'influence grandissante sur Internet. Contacté, le ministre de la Justice n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Alexis Guilleux, la Banque mondiale gèle le financement qu'elle accorde à un projet tanzanien. L'institution monétaire suspend les 150 millions de dollars qu'elle prévoyait d'allouer à l'agrandissement du parc national de Ruaha en plein centre du pays. Tout cela après plusieurs alertes répétées lancées par le groupe de recherche de l'Oakland Institute qui dénonce les violations des droits humains subies, Alexis Bédu, par les populations locales.
Le projet d'extension du parc national de Ruaha est mis entre parenthèses. L'Oakland Institute, basé en Californie, a alerté la Banque mondiale depuis plusieurs mois sur les exactions commises par des gardes forestiers. Au moins 12 disparitions, de multiples agressions sexuelles contre des femmes, des saisies de bétail aux agriculteurs locaux ont été documentées par l'organisme américain, très critique jusqu'alors à l'encontre de la Banque mondiale, accusée de fermer les yeux. Le projet a débuté il y a 7 ans. Il impacte des dizaines de milliers de villageois selon l'Auckland Institute, qui assure même dans son rapport que l'objectif du gouvernement tanzanien est d'expulser à terme près de 20 000 personnes habitant aux alentours du parc national. Le tourisme est une manne très importante pour le pays. Hausse des arrivées de l'étranger de 24% l'année dernière. Le gouvernement en a fait son fer de lance, multipliant les extensions de parcs naturels, travaillant à la diversification du secteur. La décision de la Banque mondiale somme donc comme un sérieux coup de semonce pour le pouvoir tanzanien.
Alexis Bédu du service économie de RFI. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye promet des mesures de baisse de prix pour des denrées de consommation courante, mesures qui vont être prises d'ici au 15 mai. Il a aussi annoncé hier en Conseil des ministres la mise en place d'une commission d'indemnisation pour les victimes des manifestations de janvier 2021 au mois de février de cette année. Le président mauritanien annonce sa candidature à la présidentielle du 29 juin. Ses services diffusent aux médias une lettre ouverte dans laquelle Mohamed Ould Cheikh Razouani confirme qu'il briguera un second mandat de 5 ans. Il devrait notamment y affronter Biram Dahabed, puisque lui aussi se déclare candidat. L'opposant, arrivé deuxième en 2019, se lance également dans la course. Il est un détracteur de longue date du pouvoir de Nouakchott. Il est aussi l'un des militants les plus acharnés contre l'esclavage. Une dizaine de candidats se sont déjà déclarés au total pour ce scrutin de la fin juin. Le Tchad, lui, est ce matin à 11 jours de son élection présidentielle. La campagne continue son cours pour les 10 candidats qualifiés pour l'élection. Des candidats à qui notre antenne continue de donner la parole. Les projets, les promesses et les programmes ont en ce matin notre micro à Nasra Djimasengar, président du parti Le Nouveau Jour, dont l'un des thèmes de campagne, c'est la lutte contre la cherté de la vie et contre la corruption. Première piste de travail urgente à ses yeux, remettre complètement à plat la manière dont l'argent public est dépensé.
Si nous voulons sortir de cette cherté de vie, il suffit tout simplement d'assainir les finances publiques. Quand, par exemple, les marchés publics deviennent carrément un club de corruption où on va se retrouver avec des généraux commerçants, on va se retrouver avec des ministres commerçants, les autorités s'attribuent à elles-mêmes les marchés. Ils créent des entreprises fictives. Ces marchés ne sont pas réalisés. Comment voulez-vous que la vie ne soit pas chère? Nous allons procéder à une rééducation de tous ceux qui seront associés à la gestion de la chose publique. Ce qui est public appartient à tous. Si on y touche indûment, notre place est en prison. Ça, il n'y a pas de négociation possible.
Nasra Djimasengar, propos recueillis par Carole Valade, nos reportages, nos entretiens, nos éclairages sur cette présidentielle au Tchad. Tout cela est à découvrir en version longue sur RFI.fr. Arnaud Pontus, c'est à vous.